Message assez percutant ce matin, je vais être honnête avec vous. J'ai été interpellé depuis deux semaines. Le Seigneur plaçait quelque chose, me disait « Seigneur, prends un autre, pas moi. Moi, je veux pas. » Et je me suis battu assez fortement sur un certain point qu'on va regarder. Et je me couchais, j'étais toujours percuté. Puis le passage revenait. J'ai dit « Non, revenait. » Je disais « OK. » Ce matin, on va regarder des choses intéressantes et je vais vous partager l'expérience aussi que j'ai vécue à certains niveaux. Mais on va commencer avec le premier point qui va être contexte de la foi, puis on va parler aussi du contexte de l'unité de l'Église, parce que l'Église qui ne fonctionne pas ensemble, c'est difficile d'avancer. Et je n'ai pas entendu un gros amen ici. Alléluia! Donc, on va regarder ça de proche ce matin, toute cette histoire-là. Mais avant de commencer, on va regarder ce matin, c'est le titre du message, je vous dirais, c'est « Garder la foi sur les eaux de la tempête ». C'est un gros sujet, on va regarder ça de près et on va lire Actes 27, verset 1, verset 7 au verset 13. Acte 27, verset 7 au verset 13, c'est du vieux français, mais notre Bible est inscrite comme ça, c'est dans cette version seconde. « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Sindre, où le vent ne nous permit pas d'aborder, nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmoné. Nous la voyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans dommage, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et quiétèrent de près l'île de Crète, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelait Euraquilon se déchaîna sur l'île. » Seigneur, on veut te dire merci pour la louange, l'adoration. Seigneur, on veut te dire merci pour la fraternité ce matin, pour l'amour des frères, Seigneur, pour des sœurs, Seigneur, d'être ensemble. Et aussi, Seigneur, merci pour la parole qui va être donnée. Père, je te prie de nous encourager ce matin, de nous fortifier, de nous faire réaliser la grandeur, Seigneur, du nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être des gens, Seigneur, qui puissent recevoir ta parole, Seigneur, avec joie ce matin. Père, je te prie de bénir, d'encourager, de fortifier, de relever celui qui a besoin d'être relevé également. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen et amen. Alléluia. Donc, pour mieux comprendre, pour saisir pourquoi l'apôtre Paul va aller en bateau, l'apôtre Paul va être jugé. Et Paul, son désir, c'est de retourner à Rome pour se faire juger devant César, le tribunal de César. Donc, Paul avait été accusé, quand il était à Jérusalem, d'enseigner de ne pas suivre la loi juive, soit la loi de Moïse, et la circoncision qui n'apportait pas non plus, soit de se trouver juste devant Dieu par les œuvres. Et en plus, il est accusé qu'il avait profané le temple à Jérusalem parce qu'il y avait des Grecs qui rentraient dans le temple et les Juifs qui suivaient la loi de l'Ancien Testament, les judaïsants, ont pété leur coche carrément. Donc, ça passe pas. Donc, à partir de ce moment-là, la vie de l'apôtre Paul est en danger et Paul va se retrouver à Césarée. Et à Césarée, maintenant, sa cause va être attendue devant Festus, un gouverneur romain qui est un représentant de Jules César et qui va entendre sa cause. Et Festus, il va remettre maintenant cette cause-là devant le roi Agrippa. Et Agrippa va entendre le discours de Paul, parce que Paul, dans sa culture, il avait droit, comme il était nationalité romaine, il pouvait plaider lui-même sa cause. Et maintenant, il va être entendu devant le roi Agrippa et sa sœur Bérénice et d'autres personnes. Et Paul, dans Acte 26, maintenant, il va parler de sa conversion, comment qu'il a vu le Seigneur, comment qu'il a accepté Jésus et pourquoi qu'il a agi de cette façon-là. Et même le roi, il a dit, « Paul, t'es un peu viré sa tête, tu veux-tu que je devienne même chrétien? » Il dit, « Si c'est pas moi, ça va être un autre qui va le faire. » Donc, Paul était percutant. Et au verset 26, acte 26, verset 30, « Et le roi se leva, et le gouverneur et Bérénice, et ceux qui étaient assis avec eux, et après sa plaiderie, verset 31-32, ils s'étaient retirés à part, ils parlaient entre eux, disant, « Cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de la mort ou des liens. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être mis en liberté s'il n'a pas été appelé à César. » Donc, suite à cela, l'apôtre Paul va être relâché par le roi Agrippa, et le roi, maintenant, va renvoyer Paul à Rome pour être jugé devant la cour de Rome. C'est qu'est-ce que Paul veut, c'est son désir. Et maintenant, Paul va être relâché pour se diriger vers Rome tout en étant prisonnier. Ça, c'est le contexte pourquoi que Paul revient à Rome. Maintenant, pour Paul, pour se rendre à Rome, il doit prendre un bateau. Donc, ça ne se fait pas à pied, il doit prendre le bateau. Il y a 276 personnes qui vont prendre la direction maintenant pour Rome, des gens qui sont en bateau. Acte 27, lisons ensemble, je vous donne juste le contexte, je vais rentrer bientôt dans le vif du sujet. Là. Acte 27, versets 9 et 11. « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà dépassée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos vies. » Donc, la navigation a été difficile déjà pour son premier voyage. Donc, ils vont accoster maintenant à Beauport parce qu'on fait un trajet, il y a une tempête qui est en vue. Et à Beauport, même, ils vont prendre maintenant la direction pour Phoenix. Donc, l'hiver est arrivé, le bateau ne peut pas rester à Beauport. Il y a une tempête qui se prépare et Paul lui dit, « Je ne pense pas que c'est une bonne idée de partir. » Paul veut être rassuré, mais ils n'ont pas écouté l'apôtre Paul. Il dit, « Ça va être dangereux. » Mais ceux-ci refusent d'entendre l'apôtre Paul et ils sont d'accord de partir de Beauport pour aller à Phoenix. Malgré les avertissements qu'ils ont reçus, ils vont y aller pareil. Donc, tout voyage, toute circonstance dans un voyage peut changer. Si vous voyagez moindrement, je m'en souviens, moi et Manon, à des époques, on était très actifs au Québec, sur la route, on partait, faire beau, puis on venait en pleine tempête. Hein? Regarde à gauche, regarde à droite, on est-tu encore sur la bonne route, on est-tu dans le champ, on est-tu à la bonne place? On ne savait pas c'était quoi les tempêtes. Mais quand on est dedans, on sait c'est quoi. Hein? Mais lorsque les vents contraires de la vie se déchaînent, vous savez, on finit par entendre le craquement de la coque du bateau, soit la faiblesse humaine. Souvent, on va même s'affoler ou qu'on va perdre de but la boussole, que je pourrais dire, qui doit diriger notre vie. Mais c'est dans ces moments-là, dans des temps de difficulté, que le Seigneur désire cultiver notre foi. Peut-être moins gros, même. C'est dans des moments d'épreuve où que Dieu nous travaille le plus. Comme que je pourrais dire en bon français, il nous chatouille la grosse orteille. Et souvent, ce n'est pas toujours agréable. Et les voyages, il est tellement venu difficile sur la mer qu'il est venu périlleux. Les vents se sont levés au point que les vents sont devenus impétueux, c'est-à-dire des vents rapides, des gros vents, c'est puissant, c'est une tempête, on l'appelle Ériclon. Et c'est une tempête qui est accompagnée par des pluies torrentielles, des chutes de neige, des gros froids et par des grands blizzards. Et pour les marins, ceux qui ont de l'expérience sur les bateaux, le ciel est important, les étoiles sont importantes, parce que souvent, ça va diriger les marins. Mais là, ils n'ont plus rien. Ils ne voient plus rien. C'est la totale, je pourrais dire. Le bateau est à dérive, la tempête est violente, et on jette la cargaison à l'eau, et compte de malheur, comme que je viens de dire, ils n'ont plus de repères. À partir de ce moment-là, pendant quelques jours, acte 27, c'est le contexte que je vous donne toujours, acte 27, versets 27 et 29, le 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots viennent vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent, c'est-à-dire qu'on s'approchait de quelques terres, ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses, un peu plus loin, ils jetèrent de nouveau, ils trouvèrent 15 brasses, dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 rames de la poutre et entendirent le jour avec impatience. Donc, les marins sont inquiets. Donc, le bateau bouge, ils entendent des craquements. Donc, ils sont ébranlés, ils pensent que le bateau va s'écraser. Donc, ils sont en danger de mort, je pourrais dire. Ça sent la panique. Ils jettent 4 ancres à l'eau pour stabiliser le bateau, pour qu'il puisse se sauver. Ils veulent quitter le bateau. Alléluia. Et le bateau, on sait, il va s'échouer. Mais dans ce récit que j'aimerais partager avec vous ce matin, nous trouvons des tempêtes dans nos vies. Et je veux parler de tempêtes dans nos vies ce matin. Parce que la tempête, c'est elle qui nous change. S'il n'y a jamais de tempête dans nos vies, parce que vous êtes parfaits. Allô? Donc, Dieu permet les tempêtes dans nos vies parce qu'il y a des choses à faire dans nos vies. J'aimerais dire également que pas personne d'intouchable un matin. Oh, je n'ai pas entendu un gros mot. Ça ne veut pas dire qu'on est chrétien que Dieu ne peut pas nous coacher. Alléluia! Dans ce récit que nous allons voir ce matin, il y a des récits pour notre vie. Peut-être ce matin, tu ne traverses pas de tempête, mais sois sûr, un jour ou l'autre, tu vas en traverser des tempêtes. Ça, c'est sûr, je n'ai pas besoin d'être un prophète pour vous dire ces choses-là. Et acte 27, j'appelle ça la tempête morale. Vous savez, quand nous passons des temps difficiles dans la vie, la seule place qui ne s'arrête pas, ce sont nos pensées. Nos pensées naviguent, naviguent et naviguent et naviguent. Tu te couches, tu penses, tu penses, tu penses. Tu fais de la pitoune, pitoune d'un bord, puis pitoune de l'autre bord. Je ne sais pas si ça vous arrive, là, mais moi, en tout cas, j'ai vécu des nuits comme ça. Pitoune d'un côté, puis pitoune de l'autre, puis ça marche dans ça. Moi, en tout cas, c'est ma vie. J'aimerais regarder avec vous ce matin 3 angles pour stabiliser soit vos âmes abattues, vos désespoirs, vos peurs, vos craintes et vos désarrois. La première angle que j'aimerais parler ce matin avec vous, c'est l'angle de la stabilité dans la tempête. Acte 27, verset 22, verset 26. « Ô homme, il fallait m'écouter, ne pas bâtir, de partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra s'il n'y aura aucune perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et qui je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux que tu navigues avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il n'en sera comme qu'il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » C'est encourageant, on va échouer. Mais Dieu m'a parlé. Alléluia! L'angle de la stabilité tient bon lorsque notre navigation, notre système de navigation s'avère défaillant. Au sein des tempêtes, on perd facilement nos repères. Il y a des circonstances qui viennent à contre-courant. Puis souvent, on ne sait pas trop comment se prendre dans une tempête. La mer est déchaînée, les vagues viennent sur notre vie, et c'est dans des moments dangereux, comme qu'on voit ici, que les gens veulent sauver leur vie. Et souvent, c'est dans les moments de tempête également que nous risquons de baisser les bras, mais c'est au travers des moments éprouvants et angoissants que Paul dit « Un ange de Dieu à qui j'appartiens, à qui je sers, m'est apparu cette nuit. » Wow! Est-ce que Dieu a laissé tomber Paul? Est-ce que Dieu a laissé tomber l'équipage? Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous périra, car il y aura de perte que celle que du navire. Ce que Paul dit en réalité, Dieu a un plan. Dieu m'envoie un ange. Il m'a rassuré que je vais arriver à Rome. Donc, on va faire un naufrage, c'est certain. Mais il dit, n'aie pas peur, prends courage, personne ne va mourir. C'est des belles paroles d'encouragement, ne trouvez pas vous? Dieu m'a fait une promesse. Il faut que je comparaisse devant César. Le Seigneur nous a placés ensemble sur le bateau et j'ai besoin de vous pour m'y rendre. Paul va parler aussi d'unité, ça va être le deuxième point tantôt. Paul parle aux marins, il dit, écoute, j'ai besoin de vous autres, les gars, pour me rendre au bord de la rue. On a besoin de travailler ensemble. Et le rôle du Saint-Esprit dans nos tempêtes, ce qu'il veut mettre en nous de l'assurance, déposer sa paix dans nos vies, même si ça braque, même si tu ne vois pas de clair, il vient nous rassurer, hallelujah, il est fidèle et juste pour te soutenir. Dis-le avec moi, il est juste et fidèle pour me soutenir, hallelujah. Il dit, reprends courage, ne te laisse pas abattre par la tempête, le bateau va sombrer, mais on va rester ensemble. Hallelujah! J'appelle ça l'angle de la stabilité. Ceux qui sont en proie, je dirais ce matin, d'énormes difficultés, c'est difficile dans la tempête de se concentrer à plein et à plein. Ça navigue, comme je l'ai dit tantôt, ça navigue dans la tête. Notre tête est envahie, mais la foi doit déplacer vos peurs, vos craintes et vos doutes. Je le répète, la foi doit déplacer vos peurs, vos craintes et vos doutes. Il y a de l'espoir si tu persévères dans la foi. Hébreux 16, 19. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Notre espérance est incarnée en Jésus-Christ. Dans la tempête, dans les épreuves, cette espérance est qu'un ancre pour ton ancre. Un ancre, c'est quand on met le bateau à l'eau, là, puis l'ancre là, elle soutient le bateau. Donc, cet ancre, elle vient stabiliser ta foi dans la tempête. La foi ne doit pas douter de Dieu. Nous, on a des langages. Mais si. Mais si. Mais si quoi? Est-ce que la parole, elle dit oui ou elle dit non? La parole est quoi? Elle est foi et véritable. Si, mais les mains ici, on en situe une chose, mais si. La foi ne doit pas douter de Dieu. Une foi qu'elle est jetée, je dirais, dans l'eau, elle stabilise le navire pour qu'elle ne parte pas à la dérive. L'ancre de la foi n'est pas jetée non plus dans les sables mouvants du monde, mais elle est jetée dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. L'ancre de la foi, fais confiance en Dieu. Le meilleur endroit de trouver ton assurance, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu où tu sens l'amour, la compassion, la tendresse, où que Dieu entend le cri de ton cœur. L'âme de la stabilité, c'est notre espérance, alléluia. La parole de Dieu est notre force. Elle est vérité, elle est cette foi épurée, elle est puissante pour arrêter les tempêtes. C'est la parole de notre Créateur qui nous parle. Quand l'âme de la stabilité est jetée dans le sanctuaire céleste, ça signifie que ta foi est solidement basée, hallelujah, dans les Écritures, dans la foi en Dieu, dans la confiance, au-delà du voile. Or, la foi, c'est une espérance des choses qu'on espère. Tu ne le vois pas, mais tu espères que Dieu va faire quelque chose. Hallelujah! Si vous avez entendu la voix de l'Esprit dans la tempête, ben restez calme. Un jour, je vous l'ai déjà conté, mais je vais le redire, c'est important. Pour moi, c'était une époque, quelque chose d'important. Dans la grande tempête de la maladie, le Seigneur, un jour, j'allais vraiment pas bien. Vraiment, là, je n'étais pas certain de m'en sortir ces deux jambes, comme qu'on dit. Ça allait vraiment pas bien. Et j'étais vraiment... down, désespéré. Tu sais que ça va pas, là. Morale est affectée. Et j'ai entendu une petite voix, la voix de l'Esprit de Dieu. Et j'ai reçu les mêmes paroles de l'apôtre Pierre, Pierre. Luc 22, verset 31-32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Les mêmes paroles que je vous cite, c'est les mêmes paroles qui sont venues dans mon cœur. L'amour du Père. Écoutez bien, quand on parle de l'amour du Père, là, pour moi, là, où j'ai compris à quelque part, Dieu a vu mes peurs, Dieu a vu mes craintes. Donc, il a vu ma faiblesse charnelle. Il a vu mon manque de physique, mon corps était fatigué, mon manque de également de faiblesse spirituelle. Mais le Saint-Esprit est venu me rassurer que Jésus était mon aide et que Jésus priait pour moi. J'ai pleuré comme un bébé dans mon lit. Vraiment, là, mon lit était trempé de larmes. Mais ma paix est revenue. L'ennemi a été déclaré vaincu ce jour-là. Jésus est celui qui l'a vaincu à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus a plaidé pour moi. Alléluia! Et c'est pourquoi que Paul nous dit, tiens ferme dans la tempête. Tiens ferme dans la tempête. Je vous encourage, perds pas courage, aucun de vous va périr. Dieu me l'a dit, ça c'est le langage de la foi. Si Dieu te le dit, vraiment Dieu va l'accomplir. Mets le doute de côté. Alléluia. La foi, elle saisit les preuves. La foi, tu es fondée sur le rocher de ton salut. Quand Dieu nous parle, nous sommes dans la sécurité. Vous êtes rassurés, vous êtes en paix. La parole est la stabilité pour ton cœur. Peut-être vous avez tendance des fois à vous retourner ailleurs. Restez les yeux dans la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. Jésus nous a dit, Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Allô? Quelle que soit l'intensité des vents ce matin, sa paix doit nous accompagner. Et que ton cœur, si tes émotions sont à vivre ce matin, ne sois pas troublé. Regarde la personne à côté de toi. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Alléluia. C'est un message rassurant que Paul nous donne sur le bateau. Ça veut dire que, faites pas de bêtises, précipitez pas les actions, Dieu va calmer la tempête. Appuie-toi sur la parole, confesse-toi en lui et les choses vont se passer. C'est la parole écrite. Ésaïe, on l'a chanté ce matin, 43, verset 1, dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, car tu as crié au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleurs, ils te suivront point. Tu ne marcheras pas dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes t'embraseront pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le ciel d'Israël ton sauveur. » Donc, ici, c'est une parole rassurante. Je t'appelle par ton nom, il connaît ton nom, je suis le bon berger nous connaît, on le connaît. Isaïe ne parle pas ici des t'es sur le fleuve, mais des circonstances adverses qui viennent stabiliser ta foi. Lorsque les fléaux vous atteignent, les hauteurs terrifiantes, les vagues et les difficultés, et nos morales quand elles sont au plus bas, réalisez que notre faiblesse, elle est charnelle et nous avons besoin de réaliser qu'il est notre soutien. Amen. Dans toute tempête, il y a toujours des solutions. Dieu te promet qu'il sera avec toi. Il sera ton radar pour te guider dans la tempête. Il sera ton GPS pour que tu arrives à bon port. Alléluia. Jamais qu'il t'abandonnera et jamais qu'il te délaissera. Deuxième point, le gros point que je veux parler ce matin, c'est le gros point qui m'intéresse avec vous, l'ancre de l'unité. C'était tellement dans mes conceptions. Cette semaine, je disais à Manon, j'ai besoin de jeûner. Il dit, je m'arrête. Il dit, Manon, pas de dîner, pas de souper pour moi aujourd'hui. Je suis barré au deuxième point. Là. Éclaire-moi. Là. Que veux-tu me dire? Et je vais vous partager ce que j'ai reçu pour vous, pour moi, pour tout le monde, en réalité. L'ancre, c'est quoi l'ancre de l'unité? Bon, on aime ça parler d'unité, hein? Mais moi, on t'a dit qu'on a de misère à arriver à l'unité. Est-ce que c'est vrai? On va regarder ça. Acte 27, verset 30, verset 32. « Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, ils mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres à la... » Donc, c'est une ruse. Hein. Ils veulent se sauver, mais ils disent, on va mettre les bateaux là, puis les autres veulent se sauver. Paul dit aux antiniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et laissèrent tomber. Cette scène fait craindre le pire, ça va s'échouer. Mais Paul, il y a une conception un peu différente de se sauver. Mais quand les matelots cherchaient à s'échapper, regardez le mot « s'échapper » du navire, puis qu'on mit le bateau à l'eau, les chaloupes à l'eau, et les gens veulent abandonner le bateau, et ils veulent sauver leur vie, c'est un peu légitime, vous allez me dire, en pleine tempête comme ça. Et ils sont prêts à dire aux autres, « Débrouillez-vous tout seul, nous on s'en va. » Allô l'unité, hein? Mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas le moyen de survivre à une tempête. Paul les avertit, « Si tu quittes le bateau, ils allaient mourir. » C'était de marcher à contre-courant face à ça. Donc, l'application spirituelle de mon deuxième point, quand nous sommes dans des situations désespérées, on a tendance à couper les ponts avec les autres pour sauver. Je sais que je peux parler à cœur ouvert avec ces choses-là. Là. Et c'est dans les temps de tempête, dans les temps de division, que nous devons être le plus unis. J'aimerais vous donner une parole. Là, deux semaines, j'ai été invité avec plein d'ouvriers à citer un banquet pour le réveil du Canada. Nous croyons qu'un réveil, que le Canada va connaître un réveil. Donc, Québec, Maritime, on fait partie de la gang là, qui doit vivre un réveil. Et l'homme de Dieu qui est invité à partager le message, c'était du vrai bonbon. Ah, moi, je me suis régalé, là. Et l'homme de Dieu, c'est un pasteur, c'est un évangéliste d'une grande église, au-dessus de 3000 personnes. Et aujourd'hui, il vient de prendre sa retraite, c'est pas le frère Ruth, c'est un autre. Et cet homme de Dieu a dit, et je recite un peu les paroles et je vais arriver au point, « Quand une église est brisée et divisée, il ne dit jamais qu'elle va recevoir sa guérison. » Allô? Ça commence fort, hein? Très fort. Pourquoi qu'il parlait comme ça? La raison, c'est que l'unité n'est pas présente. Et elle ne travaille pas ensemble. Elle ne marche pas dans la même direction. Et chaque personne, on ne peut pas marcher individuellement à la façon qu'on veut. Rien entendu ici, là. Est-ce que c'est vrai? On doit être ensemble. La force, c'est l'unité. La force d'être ensemble, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance. C'est là où l'huile d'onction descend. L'Église des Actes vivait ensemble. Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un corps et qu'une âme. Nul disait que ses biens lui appartenaient en proie, mais tous étaient en commun entre eux. Donc, il y avait l'esprit d'unité, d'entraide dans l'Église. L'Église des Actes était unie. Ils marchaient dans la même direction. Comme Jésus marchait un avec son Père. Jean 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, ça veut dire que pour moi, pour toi, que nous devons être un ensemble. Comme Jésus était un avec le Père, un avec le Saint-Esprit, qui avait un seul Dieu, un seul Jésus, un seul Esprit, un ensemble. Tout le monde est d'accord? Un seul, dans la même direction. Qui ne sont pas unis, qui sont unis, ils ne sont pas divisés. L'unité, c'est de marcher dans la même direction. C'est notre plus grande force dans l'adversité. Tous ont besoin des autres. Tu ne peux pas te passer de l'autre qui est à côté de toi. Allô? L'unité. C'est quoi l'unité? L'amour, n'est-ce pas? L'amour, ça englobe bien des affaires. Amen. Tous ont besoin de s'unir dans l'amour. Il n'y a pas de place dans le corps de Jésus-Christ pour l'individualiste. Mon ministère, mon ci, mon ça, mon ci, non, mettez-en. On est tous utiles un à l'autre. On a besoin de chaque personne. Moi, je ne sais pas chanter. J'ai besoin des chanteurs. Alléluia. Je n'ai pas la plus grande force physique. J'ai besoin des hommes plus forts que moi aussi. Paul nous dit, 1 Corinthiens 12, 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former quoi? Un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Il ne parle pas de plusieurs esprits, mais un seul esprit. Comme le corps humain, s'il fonctionne bien ensemble, le corps va bien aller. Mais si le corps ne fonctionne pas bien, il a besoin d'être guéri. Il a besoin d'être soigné pour retrouver sa mobilité. Est-ce que c'est vrai? Si dans le corps, l'unité, le pardon, la repentance, la restauration entre les frères, ça ne se manifeste pas, jamais qu'on va aller plus loin. Allô? On veut un réveil, mais un réveil selon moi. Mais ce n'est pas ton réveil à toi, c'est le réveil de Dieu dans la vie de l'Église. J'en ai vécu des églises. Laissez-moi vous dire, ça fait 25 ans que je roule sur la route, j'en ai vu toutes sortes de couleurs. Et jamais, si l'Église n'est pas ensemble, qu'elle va recevoir la guérison. Nous marchons à contre-courant. Le seul qui va se frotter les mains, c'est Satan. Pourquoi? Parce que l'Église ne devient pas une menace pour lui. Et l'Église devrait être une menace pour le monde des ténèbres. Le seul qui bâtit Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. Et l'enseignement que Jésus nous a donné, c'est de s'aimer, de ne pas se juger, de ne pas se blesser, de ne pas se médire, de ne pas se blesser. Il n'y a aucune place dans le corps pour se blesser et se briser et se diviser. Là, c'est le temps de dire un gros amen, même se lever puis applaudir. Alléluia. Si cela, ça ne se passe pas, souvent c'est de l'hommerie. C'est très charnel. Attention, mes amis, à nos actions, à nos jugements. La repentance est là pour tout le monde. L'amour, c'est ensemble. 1 Corinthiens 3, 5. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Pas moi qui le dis, là. Hein? C'est bien écrit, là. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand il dit « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. Paul nous enseigne ici pourquoi il y a des divisions, pourquoi il y a des blessures. C'est clair, c'est souvent le problème des convictions personnelles. Moi, je pense comme Paul, moi, je pense comme Apollos. Et nous voulons défendre nos points de vue. Écoutez, honnêtement, je veux glisser quelques mots ce matin sur des points de vue qui ont porté que j'ai vu de mes propres yeux ou qu'on a parlé en passant entre ministres. Puis, bon, je vous répète, puis c'est pas juste ici, là, OK? On se met dans le bateau de l'Église. Quand on parle de l'Église, on parle du corps de Jésus-Christ. Écoutez, qu'est-ce que j'ai entendu? Dans plusieurs années, vous savez, moi, j'ai voyagé beaucoup vers l'Europe, et en Europe, la mentalité est un peu différente du Québec. Donc, en Europe, un enfant ne peut pas prendre la Sainte-Sainte sinon, s'il n'est pas baptisé. Est-ce que vous êtes pour ou contre la Sainte-Sainte? Je parle des points de vue, là. Il faut-tu être baptisé pour prendre le repas du Seigneur? Je suis pour ou je suis contre le COVID? Je suis pour ou contre le masque pour le COVID? Je suis pour ou contre une femme qui prêche dans l'Église? Je suis pour ou contre le remariage? Je suis pour ou contre d'utiliser des gens divorcés dans l'Église? Je suis pour ou contre la dîme? Je suis pour ou contre un arbre de Noël dans l'Église? Pour ou contre la danse dans l'Église avec des drapeaux? Pour ou contre les manifestations du Saint-Esprit dans l'Église, le rire, le tomber à terre? Pour ou contre le chauffard dans l'Église? Pour ou contre même de parler en langue dans l'Église? Pour ou contre d'avoir une prophétie dans l'Église pour aller voir quelqu'un dans une église ou des églises qui marchent comme ça puis qui vont dire « Faut-il aller voir une personne avant de donner ta parole de connaître? » Pour ou contre ces choses-là? Voyez-vous? On est confronté à du pour et à du contre, à du Paul et à du Apollos. Vrai ou pas? Pour ou contre le berger qui va vous enseigner? C'est des points de vue que Paul, que je suis de Paul et d'Apollos, c'est des opinions différentes qui sont souvent source de division entre nous. Puis on l'a vécu avec le COVID. On n'a pas besoin d'aller bien, bien, bien loin, là. Nous, c'est nos émissions, à tous les mardis, on avait des gens qui commençaient à parler de COVID, puis on les disait, écoute, ça, c'est ton opinion, mais on n'est pas ici pour parler de nos opinions. On est ici pour parler qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Tes opinions qui veulent briser et diviser, c'est pas bon. La politique dans l'Église, j'évite ces sujets-là. J'ai des choses qui est mieux se respecter que se briser. Allô? Si on veut marcher ensemble, évitez les discussions folles. C'est ton opinion, je la respecte, mais oblige-moi pas ton opinion. C'est-tu clair? Alléluia! Vous savez, vous me connaissez, c'est un gars qui est assez clair avec mes pensées. Souvenez-vous, Paul avec Barnabas. Comment que Paul veut faire un voyage avec Barnabas? Et puis, Barnabas veut ramener Jean-Marc. Puis Paul, il n'est pas trop d'accord, parce que Jean-Marc les a délaissés en cours de route. Puis Paul, il dit, il n'est pas assez mature, ce gars-là, pour emmener avec nous, ce gars-là. Non, 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 non. Il oublie ça, Barnabas. Lui, il ressuscite, puis nous autres, on part. Mais ça n'a pas marché comme ça. Il y a une prise de position qui a été prise. Acte 15, verset 39. Ce discernement fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre, et Barnabas prenait Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. On voit ici une prise de position solide, quelque chose de ferme, et deux hommes qui voient les choses différemment. Paul ne croit pas Jean-Marc, et Barnabas ne le prend pas. Pourtant, Paul, plus tard, a eu besoin de Jean-Marc. Barnabas a pris le temps de former Jean-Marc. Ne jetez pas la serviette trop vite. 2 Timothée 4, verset 11. Luc, seul avec moi, il dit, prends Marc, on parle de Jean-Marc, là, et emmène-le avec toi, il m'est utile pour le ministère. Pff, il vient de changer son fusil d'épaule, on dirait. Voyez-vous, les opinions, nos façons de faire les choses, ne sont peut-être pas toujours justes. Si, qui aurait eu raison, Paul ou Barnabas? Qui a eu tort, Paul ou Barnabas? Des bonnes réflexions, hein? Qui a raison dans tout ça? Si nous sommes vraiment unis, frères et sœurs, on va éviter premièrement de s'irriter, de se confronter dans nos convictions personnelles et qui n'apporte rien non plus d'édifiant. Je dirais ceci, c'est ma pensée, vous êtes libre de faire qu'est-ce que vous voulez. Chaque église est libre de prendre la direction qu'ils veulent prendre. Si tu ne veux pas aller à cette église-là, bien, vas-y pas. Évite-toi des mal de tête. Reste en paix avec le corps de Jésus-Christ. Reste pas dans la division avec le corps de Christ. Reste dans la paix. Reste dans la paix. Écoutez, maintenant, on pourrait vous en parler de bien des choses, mais j'ai eu tellement... Je vais vous donner un exemple. Je travaille avec les frères gitans. J'étais invité avec les frères gitans en Europe. Et les frères gitans, c'est les femmes d'un bord, les hommes de l'autre bord, puis les femmes sont voilées. OK? Ça marche comme ça. Tu arrives en Europe, certaines églises, les femmes ne peuvent pas prêcher, c'est contre-courant. Ça ne marche pas, une femme ne peut pas prêcher une ADD en France. Et les jeunes qui veulent pousser sont fruits de tout ça. C'est des positions. Bien des gens vont quitter le mouvement pour partir leurs propres assemblées qui peuvent exercer leur ministère. Écoutez bien, Colossiens 3, 16, « Et la paix de Christ à laquelle vous êtes appelés, pour former un seul cœur, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ayez l'amour, ayez la reconnaissance pour les autres, mais restez en paix. Même si tes opinions sont différentes, respectez-vous. Ne vous tuez pas. Des prises de position qui vont briser, qui vont diviser, laissez place à l'amour. Des fois, on tient le bateau à bout de bras par des convictions qui nous brisent, qui nous divisent, les frères qui nous quittent, qui nous délaissent. Ça ne marche plus, là. Je pense qu'on est rendu à la fin des temps que l'Église doit apprendre à être unie, là. On veut le réveil, on veut ci, on veut ça, mais personne n'est prêt à bouger. Personne n'est prêt à se soumettre. Sois plus mature que l'autre. Paul nous dit, écoutez bien, je vais aller encore plus loin. Tite 3.9, Paul nous dit, puis c'est encore Paul. Vous savez, Paul a tout connu ça, ces époques-là, qu'est-ce qu'on passe là. Mais évite, qu'est-ce qu'il dit ici? Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, à la parole. Car elles sont inutiles et vaines. Il dit, garde ton cœur plus qu'autre chose. Et juste tes opinions personnelles, garde-les pour toi. M'oblige pas à aller dans ta direction. Il y a des frères baptistes, il y a des frères mennonites. Allez, vous allez être bien. Mais aimez-vous. Soyez pas divisés. Il y a place au changement, il y a place à la repentance. Parlons-nous dans le respect. On a le droit à nos opinions, on n'est pas des clones. Mais pas au point de se déchirer, de se mordre, c'est non. C'est non. Paul nous parle d'un corps en santé, c'est quoi? Éphésiens 4, versets 16 et 17. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formé un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, la force de l'Église, c'est l'unité dans la diversité. Ça ne veut pas dire que l'Église vit dans le péché parce qu'on est d'opinions différentes. Arrêtons de voir le péché qu'il n'y en a pas. Alléluia! Nous, on est bons, les chrétiens, sur le péché. Pow, 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 pow! Relax, là. Relax. Comprends les choses, là. Allô? Voici ce que le Seigneur déclare, verset 17. C'est que vous ne devez plus marcher... Comment? Qu'est-ce qu'il dit ici, là? Comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Si tu es un chrétien de nouveau, tes pensées doivent être renouvelées. Jésus-Christ est la tête de l'Église et c'est l'assistant du Saint-Esprit qui fait grandir son Église, qui fait développer son Église. Le corps grandit quand les gens se soumettent à l'Esprit de Dieu et qu'ils deviennent un avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et qu'ils collaborent les uns avec les autres dans l'amour. Voyez-vous, c'était la force de l'Église primitive. Et on devrait retrouver ces choses-là, qui sont capables, des gens qui sont capables de mettre de l'eau dans leur vin et de se respecter et pas se condamner et se juger. Si une femme un jour vient prêcher ici, je vais dire parfait. Je vais vous dire pourquoi. Les assemblées Pentecôte nous permettent qu'une femme vienne prêcher dans nos églises. C'est l'église Pentecôte qu'on est ici. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est ton problème, c'est plus le mien. Wow! Putain, mon homme. Moi, c'est ma position. Tu as le droit. Les assemblées de Pentecôte le permettent. Tu ne perdras pas tes lettres de créance demain matin, là. Comprenez-vous pourquoi j'avais le cœur lourd quand je bâtissais, là? Alléluia. Jésus va emporter la guérison du corps. Il va emporter la restauration du corps. Il va emporter les percées spirituelles dans le corps. On ne doit pas se diviser entre nous. Chaque église est libre, je viens de le dire, mais c'est à nous de nous aimer. Notre but, c'est la proclamation de l'Évangile. Notre but, c'est de gagner des âmes au Seigneur. Notre but, c'est d'avoir des guérisons, des délivrances, des restaurations et des nouvelles familles qui rentrent dans l'Église et t'es acceptent tels qu'ils sont et Dieu va les changer tels qu'ils sont. Ça, on l'apprend avec les années. On l'apprend, ces choses-là, avec les années. On l'apprend à la dure, mais on l'apprend. J'ai pris une illustration. Je sais que nous ne sommes pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Là. Vous savez, j'ai pris l'illustration d'un train. Autrefois, les trains marchaient au charbon. Hein? Pour que le train puisse marcher, ben, on mettait du charbon, puis la chaudière, ben, la fumée sortait. Mais s'il y avait un charbon qui tombait à côté, ben, elle se refroidissait. Était plus alimenté par le feu. C'est la même chose dans notre vie en tant qu'Église. Si la personne se met toujours à part, ben, tu ne pourras pas être alimenté de l'amour des frères et des sœurs. Allô? Ouh. Troisièmement, pas eu de rush, c'est bon. Alléluia. J'ai besoin de l'angle de la réalité. Troisièmement, acte 27, 43-44, mais le centenier qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Et eux autres, de se mettre sur les planches et sur des débris de navires, et ainsi tous parvinrent à la terre sains et saufs. On voit ici que les soldats veulent tuer les prisonniers, mais l'angle de la réalité décrète ceci. Sauve ta peau, implique-toi, reste pas passif. Si vous voulez pas périr, il va falloir que tu apprennes à nager. Si vous faites naufrage ce matin, prends la parole du centenier qui va dire à Paul, « Paul, saute à l'eau et sauve ta peau. » Écoute bien, passe à l'action. C'est le seul moyen de s'en sortir. Faites un geste, je dirais, pour que tu arrives à la rive. Combien de personnes ont parti au début? 276. Combien sont arrivés à la rive? 276. Dieu a été fidèle. Tous ceux qui ont affronté la tempête doivent suivre ce processus. Ils doivent tous se mouiller. La passivité est l'ennemi de l'homme. Il faut avancer malgré les tempêtes. Si vous voulez votre guérison émotionnelle, spirituelle et en tant que corps, il faut être capable de relâcher ce qui nous tient captif. Est-ce que c'est vraiment utile que je tienne à ce point-là? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Posez-vous les bonnes questions. Mais non, c'est comme ça qu'on raisonne. Ça, es-tu certain que c'est la bonne façon que tu vas faire? Tu as-tu réfléchi à ce que tu vas faire? Ça, c'est-tu la bonne décision? C'est-tu si important que ça? Là, je l'écoute. Mais t'as raison, Manon, c'est pas si important que ça. Elle dit relâche. Voyez-vous où je vous emmène un matin? Une fois que vous acceptez de relâcher et de vous jeter à l'eau, c'est là que la porte de la liberté va s'ouvrir. Vous allez affronter vos peurs, vous allez affronter vos craintes. Cela veut dire que vous êtes prêt à affronter votre ennemi, que vous êtes prêt à nager pour sortir de votre situation. Jetez l'angle de la réalité. Il faut compter sur Dieu pour vous amener à la rive, c'est sûr. Mais tous ceux qui ont été délivrés, qui sont arrivés à la rive, ils avaient tous ce sang en commun, ils étaient tous mouillés aux os. Tout le monde était dans le même bateau. Si le bateau a échoué, il a échoué, Dieu l'a dit, mais ils ont resté présents. Ils ont été des hommes qui ont gardé le bon conseil. La tempête nous fait souvent dévier de nos territoires. Dans les tempêtes également, je vous dirais, c'est là que Dieu vient transformer l'intelligence. Moi, avec les années, je vous l'ai dit souvent, à travers quand j'ai frappé le mur de la maladie, c'est là que j'ai commencé à changer à d'autres niveaux. J'avais un caractère assez fort, vous le voyez aussi. Là, je suis pas mal plus doux aujourd'hui. Maintenant, on m'appelait, moi, le bulldozer, là, mais le gars qui avançait, c'était un cheval courant. Une personne me dit, Serge, toi, il dit, tu cours, tu fais pas le courir, t'es un cheval, tu galopes. Ça a toujours été ma vie. J'étais un évangéliste, j'étais assis à la rue, j'étais dans un bar, j'avais des positions à prendre. J'étais ce genre de personne-là que Dieu m'a appelé. Mais quand j'ai frappé un mur, les choses ont commencé à changer. Puis je dis, merci Seigneur, j'avais besoin de changer. Puis j'ai pas fini de changer. Soyez patient avec moi, là. Puis je vais être patient aussi avec vous, là. Mais pour arriver, il faut se donner la main. Alléluia. Combien sont d'accord avec ça? La réalité ce matin, la vraie réalité, la moralité, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que oui, les tempêtes nous font fondre des détours, mais oui, la tempête nous transforme. Oui, elle nous transforme pour le meilleur, mais c'est dans les épreuves qu'on voit la main de Dieu. Et c'est ça, dans sa fidélité qu'on voit que Dieu ne change pas non plus. Si vous voulez suivre ou poursuivre ou de vivre dans une tempête, approchez-vous du cœur de Dieu, prenez la parole de Dieu, louez-le, remerciez-le, soyez un avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Restez dans l'unité du corps, dans l'amour de Jésus-Christ. Et si vous voulez être honnête avec vous ce matin, si vous avez besoin de dire, moi j'ai des défis devant moi, tous ont besoin d'évoluer. Tous ont besoin de grandir. Tous ont besoin de maturer. Et tous ont besoin de changement. Allô? En tout cas, si vous n'avez pas besoin de changement, priez pour moi, en tout cas, là. On n'est pas parfait. On s'entend avec ça, là. C'est vite voir les imperfections des autres, hein? On est vite avec ça. On est tous en même galère avec ça. Mais ce matin, nous avons vu trois ancres. L'ancre de la stabilité, l'ancre de l'unité et l'ancre de la réalité. Peut-être ce matin, tu auras besoin de te réconcilier avec des gens. Peut-être tu auras besoin peut-être de passer par une repentance. Peut-être ce matin, tu auras besoin de demander pardon, de t'humilier. Peut-être ce matin que tu as le plus gros point de mettre tes opinions personnelles puis faire tourner ta langue cette fois avant de parler. Allô? Il y en a qui vont sortir. Qui se prend ce pasteur-là? Pas grave. T'es libre. Moi, je prêche avec le cœur un matin. Là. Je veux voir l'Église avancer. Je vous aime. Vous savez à quel point je suis jaloux de vous. Là. Vous ne savez pas à quel point. Maintenant, on prend le tabac. Elle dit, lâche-la, cette Église-là. Je ne suis pas capable. On prie pour vous. On est avec vous. On est dans vos combats avec vous. On est avec vous. Je vous aime. Je vous apprécie. Je vois vos défis. Je vois vos combats. Et le Seigneur me dirige dans des choses pour avancer. C'est des points un matin pour avancer. C'est des points pour aller plus loin. Êtes-vous prêt à ça? Êtes-vous prêt à ça? De dire, je mets mes convictions de côté puis je ne me bagarre plus avec ça. C'est ça la réalité de l'Église, frères et sœurs. L'Église qui avance, l'Église, ils ont des opinions. Oui, puis ils ont le droit à leur opinion. Mais ils mettent l'appareil. Alléluia. Puis dans mon Église, si j'ai des opinions différentes de l'autre, ben, fais-ce pas dessus. Fasse pas dessus. Hein? Ça vous a-tu parlé un petit peu? En tout cas, moi, ça m'a parlé. On va se lever ensemble. Alléluia. On va se lever ensemble un matin. J'aimerais qu'on puisse faire de quoi de spécial un matin. Un matin, puis lui disait, si je t'ai blessé dans le passé, je te demande pardon. Allô? Soyez humble, soyez humble. Dieu aime les cœurs humbles. Si tu as blessé quelqu'un, va le voir. Demandez-vous pardon. Ça s'arrête là.